Si nous avons choisi d'examiner ce sujet, la doctrine des 144 000, c'est pour plusieurs raisons. Vous voyez, d'habitude, il faut avoir plusieurs raisons pour tout ce qu'on fait. Et nous en avons plusieurs. Premièrement, à cause de l'identité de ces 144 000. Les témoins sont les seuls, à ma connaissance, à faire de ce chiffre le nombre exact et total des sauvés dans les cieux. Et puisque ces 144 000 seront tous, selon eux, des témoins, ils y attachent très naturellement une très grande importance. Deuxièmement, la doctrine est à la base de l'eschatologie des témoins, c'est-à-dire de leur doctrine des derniers temps, des dernières choses. Et cela intéresse tout le monde. Et troisièmement, la dernière raison pour examiner cette doctrine, c'est qu'elle est complètement à côté de la vérité biblique. Je fais tout de suite appel en disant cela à ce qui a été dit dans la déclaration d'intention de tout à l'heure. Je crois qu'il est la responsabilité de tout chrétien, s'il estime qu'une doctrine est fausse, de la condamner avec vigueur, ouvertement et formellement. Et là-dessus, vous avez constaté que les témoins sont d'accord, selon leur propre croyance et selon leur propre texte. À moins qu'ils estiment être les seuls à pouvoir déceler une fausse doctrine. Ils sont aussi obligés de se montrer des hommes de bonne volonté, comme ils nous encouragent de l'être. Ils ont le droit, je crois, de nous demander d'être des hommes de bonne volonté et d'étudier avec eux. Nous avons également le droit, réciproquement, de leur demander d'être des hommes de bonne volonté et d'étudier avec nous. Mais il ne me suffit pas, et ceci je l'ai dit hier soir, il ne me suffit pas de dire que je crois ceci et ensuite de m'attendre à ce que vous le croyez aussi simplement parce que je le dis. Il ne me suffit pas de condamner comme ça. J'ai la responsabilité de condamner bibliquement, c'est-à-dire preuve biblique à l'appui, sinon ce que je dis n'a pas de sens. Et vous n'êtes pas obligé, bien évidemment, de croire. Dans le livre « Du paradis perdu au paradis reconquis », il est dit à la page 242 que rien ne saurait être plus important que la connaissance des Écritures. Cela est absolument vrai. Et c'est justement cette connaissance qui mettra en évidence la nature de cette doctrine, pour le moins incompatible avec l'enseignement biblique. Et nous allons voir pourquoi tout à l'heure. Ce qui me rend ma tâche un peu délicate, c'est que je dois me limiter au sujet des 144 000, ou en tout cas j'ai choisi de me limiter plutôt aux chiffres et aux résultats du fait qu'on a choisi ce chiffre, au lieu que de parler du salut ou du système eschatologique qui entoure ce chiffre et les résultats qui s'en suivent. J'ai déjà indiqué que cette doctrine était la base du système eschatologique des témoins. Elle est donc partie intégrale, même la clé de voûte, d'un système extrêmement développé, je ne dirais pas compliqué, mais développé, et que la plupart des témoins eux-mêmes, j'en suis convaincu, ne comprennent même pas du tout. En tout cas, le domaine de la fin, tel que décrit dans les nombreux volumes imprimés par la Tour de Garde, est tellement vaste, et développé, difficile à schématiser, que puisque ce n'est pas là mon sujet principal, je n'y entrerai pas, ou je n'y entrerai que quand cela est absolument nécessaire à la bonne compréhension de ce que j'essaye de vous montrer. Une autre chose qui rend la tâche un peu délicate, c'est que la question du salut, comme je disais, entoure ce chiffre. La question du salut est étroitement liée à ce chiffre pour les témoins. J'y entrerai là aussi le moins possible, non pas parce que c'est très développé ou très compliqué, mais parce que M. Hendricks va traiter ce sujet demain, dans l'après-midi, à 15h. Il me sera pourtant nécessaire d'aborder ces deux sujets un peu en passant pour vous parler du chiffre et des résultats qui s'en suivent, pour mettre quelques clarifications sur certaines choses que je dirais, notamment en ce qui concerne le salut, dans la partie de cette étude intitulée « Conformité aux Écritures ». Vous avez reçu une feuille à laquelle j'attire votre attention maintenant, qui montre à peu près ce que nous essayons de voir aujourd'hui, En premier lieu, la doctrine des témoins de Jéhovah, surtout maintenant, n'oubliez pas, c'est le chiffre et les résultats de ce chiffre que nous allons garder. Et ce qui se trouve comme base du chiffre se trouve dans ces deux passages, que nous allons lire d'ailleurs dans leur entier. En deuxième point, nous allons garder cette doctrine, si vous voulez, de trois différents points de vue, c'est-à-dire que j'aimerais regarder le principe qui a été utilisé, employé pour décider qu'il n'y a que 144 000 sauvés. Comment les témoins sont-ils arrivés à cette conclusion et quelles sont les conséquences de leur choix par rapport au contexte dans lequel ils font ce choix. Un deuxième point de vue, quelle est la conformité de cette doctrine aux autres Écritures qui ont affaire avec ceux qui sont sauvés, ceux qui sont les élus, ceux qui reçoivent le salut qui vient de Dieu. Et troisième, quel est le résultat pratique de l'application de cette doctrine au sein de l'organisation elle-même? Parce qu'il y a un résultat très net et très clair. Vous voyez, j'aime ces deux adjectifs, très net et très clair. Cela se passe, et c'est très facilement à voir, ce qui se passe quand on applique cette doctrine au sein de l'organisation, du fonctionnement de l'organisation des témoins. Nous allons donc lire ces deux passages. Au risque d'être un peu long, je crois que ça vaut la peine quand même de savoir sur quoi base-t-il cette idée de 144 000. Apocalypse chapitre 7, versets 1 à 10. Après cela, je vis quatre anges, debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Aser, 12 000. De la tribu de Naphtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issacar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Chapitre 14, versets 1 à 5. Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe, et ils chantent un cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre êtres vivants et des vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Sans entrer dans une explication de cette prophétie, ce qui n'est pas mon intention ici, et ce d'ailleurs que je n'ai pas préparé, je voudrais quand même signaler que la première vision de chapitre 7 se place dans une pause entre l'ouverture du sixième et septième sceau, les sceaux qui annonçaient l'un après l'autre les jugements sur la terre, et que la deuxième vision, chapitre 14, a lieu avant les sept coupes de fléau sur la terre, après l'apparition de la bête qui monte de la mer et de celle qui monte de la terre. Vous voyez donc déjà que nous avons affaire ici à des passages très imagés, et ça c'est un fait à retenir. Vous avez noté dans le premier passage qu'après avoir entendu le nombre de ceux marqués du sceau, 144 000, Jean regarde et voit un groupe qu'il appelle la grande foule. La distinction entre ces deux groupes, si en effet il y en a deux, je vous signale que vous avez vu peut-être dans le passage que nous avons lu, il dit « j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau ». Et puis ensuite, je regardais et je voyais une grande foule. Je suggère qu'il y a là, dedans, la possibilité d'une explication de ce qui se passe ici. Mais s'il y a deux groupes en effet, la distinction entre ces deux groupes est une distinction capitale pour les témoins, et c'est là-dessus que joue toute l'importance de la doctrine, et pour eux et pour nous. Voyons un peu maintenant si quelqu'un pourrait me couper les lumières là-bas et me mettre en marche la machine. Voyons un peu. J'essaie de mettre ça à point. Bon. Ce que les témoins eux-mêmes disent au sujet de ces 144 000 personnes. Est-ce que vous voyez assez bien ? La publication intitulée « Que Dieu soit reconnu pour vrai », édition de 1948, dit à la page 121, et vous avez cette citation devant vous, la Bible dit sans équivoque que le nombre des membres de l'Église céleste sera, conformément au décret divin, de 144 000. L'Église est donc limitée à ce nombre prédestiné d'élus et devient dans les cieux la partie principale, c'est-à-dire le corps gouvernemental de l'organisation universelle de Jéhovah Dieu. Les autres créatures qui recevront de Dieu la vie n'appartiendront pas à l'Église, mais habiteront sur cette terre qui sera gouvernée du ciel par Christ et son Église. Outre le fait que trouver tout cela dans les passages que nous avons lus, et c'est dans ces deux passages qu'on trouve tout cela, est très curieux. Il devient tout de suite évident qu'il y a dans le système des témoins deux classes de personnes. Il y a l'Église, les 144 000, un chiffre pris donc très, très littéralement. Et les 144 000 qui régneront dans le ciel avec le Christ. Et il y a les autres, la grande foule, qui ne peuvent pas faire partie de l'Église et qui habiteront sur la terre, gouvernés d'en haut. En effet, selon la même publication, page 237, il est dit « Les témoins de Jéhovah n'espèrent pas tous aller au ciel ». Cette différence de classe est renforcée par la liste de titres ou de noms accordés à ces deux groupes de personnes. Voici quelques-uns des termes que j'ai pu trouver dans mes recherches. Ces titres sont tirés de six publications différentes. Vous noterez d'abord la profusion de noms donnés aux élus par rapport à ceux donnés aux autres. Ce ne sont pas tous les noms donnés aux élus, ce ne sont pas non plus tous les noms donnés aux autres, mais la proportion est à peu près exacte. La profusion de noms donnés aux élus par rapport à ceux donnés aux autres. Vous remarquerez ensuite la nature de ces noms. Tout ce qui est céleste et élevé s'applique aux élus. Ce sont des fils spirituels. Ce sont le royaume céleste, la nouvelle Jérusalem, les oints, les adjoints du Seigneur, la classe spirituelle du temple, les héritiers du royaume, les chefs royaux, l'épouse du Christ, etc. Par contre, tout ce qui est du plus ordinaire caractérise les autres. La grande foule, ils sont des Jonadab, d'après le Jonadab de 2 rois 10, dont nous verrons quelques précisions tout à l'heure. Ils sont la classe terrestre, ils sont les autres brebis. D'après l'expression de Jésus en Jean 10, 16, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Nous verrons également le vrai sens de cette déclaration tout à l'heure. Jusqu'où remonte cette étonnante doctrine, cette classification des gens dans des groupes différents? Déjà, le fondateur des témoins, Charles Russell, avait distingué entre deux classes de fidèles, une classe élevée qu'il appela la classe N, l'épouse du Christ, ou les 144 000, et une classe moins élevée, la classe M, composée de gens nés d'esprit, eux aussi, mais moins spirituels et qui auraient la possibilité de monter au ciel après le millénium. Je voudrais souligner que ce qu'il croyait, Charles Russell, et ce qu'il enseignait n'était pas ce qui est enseigné aujourd'hui. Il enseignait qu'il y avait deux classes, les 144 000 qui passeraient dans les cieux après la mort, et une classe moins élevée qui était tout de même remplie du Saint-Esprit, ce qui n'est pas le cas, ils ne sont pas nés d'esprit selon les témoins aujourd'hui, et qui allaient au ciel après le millénium, ce qui n'est non plus la doctrine d'aujourd'hui. Il appelait cette grande multitude la grande foule, cette deuxième classe, la grande foule. Et en plus, Russell avait enseigné que l'année 1918 marquerait la moisson, la fermeture de la classe élevée, et que désormais la porte à l'immortalité serait fermée puisque toutes les places dans les 144 000 seraient prises. 1918. Bien que Russell avait dit 1918, les témoins qui l'ont suivi se sont montrés beaucoup plus cléments, et ce n'est qu'en 1931, selon la publication « La vie éternelle dans la liberté des fils de Dieu », page 367, que la porte des 144 000 fut fermée. Il est intéressant de noter qu'un autre livre, « Le royaume millénaire du Dieu s'est approché », publié en 1975, indique à la page 198 que cette porte n'est toujours pas fermée et ne le sera pas officiellement avant la grande tribulation qui précède le millénium. Cette porte de ceux qui sont marqués du sceau, c'est un autre terme qui s'applique aux 144 000, cette porte étant fermée, il y a une diminution du nombre des témoins qui participent à la célébration annuelle du repas du Seigneur parce que, qu'il soit noté en passant, seuls les 144 000 élus sont autorisés à participer à ce repas. Les autres brebis, ceux qui sont témoins mais pas des élus, sont, et je cite, « exclus de toute participation aux emblèmes », selon la page 146 du « Royaume millénaire de Dieu s'est approché ». En comptant le nombre de participants à cette commémoration annuelle, on arrive à suivre le nombre décroissant de cette classe de témoins appelés élus. Voici quelques chiffres que j'ai relevés dans mes recherches et qui indiquent qu'aujourd'hui il doit y avoir moins de 10 000 ou à peu près 10 000, pas plus, de cette classe toujours en vie. Dans les années 30, un problème s'est posé aux témoins. Jusque-là, ils avaient cru, comme je vous l'ai dit, que les deux classes iraient au ciel. Seulement la deuxième classe devrait passer d'abord par le millénium. Mais avec le nombre des 144 000 élus tout à fait ou presque remplis à ce moment-là, comme ils le croyaient, et le nombre des gens qui s'adhéraient aux témoins pendant cette période étant très grand, on se mit à se demander si un si grand nombre de gens qui ne faisaient pas pour autant partie des élus pourraient vraiment espérer le ciel comme demeure éternelle. S'ils n'étaient pas des élus, comment pouvaient-ils entrer dans les cieux après le millénium? Il fallait donc trouver une autre explication. Ce fut le 31 mai 1935, lors d'un discours à l'occasion de l'assemblée que les témoins ont tenue à Washington, que la réponse fut donnée. Dans ce discours, prononcé par M. Rutherford, deuxième président de l'organisation, fut révélé ce que les témoins appellent un saint secret. Ce secret, c'était que la grande multitude ou la grande foule se comparait à Jonadab, fils de Rechab, dont l'histoire se trouve dans 2 Rois 10, 15 à 28 et Jérémie 35. Jonadab était chef des Kénites, une nation qui habitait parmi le peuple de Dieu. Et Jéhu, roi d'Israël, l'avait pris avec lui et il l'avait assisté, Jéhu, en supprimant le culte de Baal chez les Samaritains. Ainsi, Jonadab n'était pas israélite, mais il avait aidé un roi juif à accomplir une tâche importante. Le Jonadab témoigne n'est donc pas, depuis le 31 mai 1935, pas un frère en Christ, je parle dans le contexte des témoins, ce n'est pas un frère en Christ, pas un des élus, pas un membre de l'Église, mais il peut néanmoins être épargné pendant la bataille d'Armageddon s'il travaille avec attention et fidélité aux côtés des élus. Cet éclaircissement, et là je cite, « Cet éclaircissement montra que la grande foule qui figure dans la vision reçue voici 19 siècles par l'apôtre Jean et consignée dans l'Apocalypse 7, 9 à 17, se composerait des autres brebis appelées à vivre éternellement dans un paradis universel sur la terre. » Notez s'il vous plaît que ni la doctrine du paradis sur la terre, ni celle par laquelle la grande foule est identifiée par les autres brebis, n'existait avant cette date, 31 mai 1935. Nous redisons donc la doctrine des 144 000 et la grande foule depuis 1935. Les premiers, les 144 000, sont les élus, l'Église, et régneront avec le Christ dans les cieux, pendant le millénium et après. Ils sont les seuls qui iront aux cieux. Les autres brebis, bien que faisant partie de l'organisation, ne sont pas l'Église et n'ont pas l'espérance d'aller au ciel. Ils espèrent plutôt une vie terrestre sous le règne victorieux et l'autorité du Christ et de ses 144 000 adjoints. Nous reviendrons à ce schéma tout à l'heure dans un autre contexte. Mais je suggère ici que cette doctrine soulève pas mal de problèmes, tant sur le plan doctrinal que sur le plan pratique. Et je voudrais vous montrer trois anomalies créées par cette façon de croire et d'enseigner. La première concerne la méthode d'interprétation employée pour arriver à ces conclusions, notamment celle du chiffre lui-même, quelle place donc est accordée au littéral et quelle place au symbolique. Le deuxième concerne la conformité de cette doctrine aux autres enseignements, comme je vous avais dit tout à l'heure. Et la troisième concerne les résultats obtenu par l'application de cette doctrine dans le sein de l'organisation des témoins. Le premier problème posé par cette doctrine concerne un principe d'interprétation. Dans le livre « Que Dieu soit connu pour vrai », 1948, page 200, voici ce que la tour de garde dit au sujet de l'interprétation des passages imagés de la Bible. « Beaucoup de personnes commettent l'erreur de croire à l'accomplissement littéral de certaines déclarations bibliques écrites dans un langage symbolique. » C'est important, je vais le relire. Beaucoup de personnes commettent l'erreur de croire à l'accomplissement littéral de certaines déclarations bibliques écrites dans un langage symbolique. C'est un tout petit paragraphe qu'ils ont écrit eux-mêmes, mais qui donne une très bonne description de l'erreur des témoins en ce qui concerne ce chiffre des 144 000 et qui donne aussi une bonne description de beaucoup de choses qui sont faites au nom de l'exégèse de l'Apocalypse. Normalement, et je dis bien normalement, un bon principe d'interprétation de la Bible, c'est de prendre tout littéralement, sauf là où le contexte indique un sens plutôt figuré, comme par exemple dans une vision. Et quand il s'agit d'une vision ou d'un écrit apocalyptique, le principe est normalement inversé. Il faudrait donc considérer les données dans un sens symbolique, sauf là où le contexte indique un sens plutôt littéral. Mais vous avez remarqué que j'ai dit que c'est le texte ou le contexte qui indique, dans un passage figuré, quels faits peuvent être compris dans un sens littéral. Personne n'a le droit d'imposer une opinion arbitraire sur ce qui est symbolique et ce qui ne l'est pas. Rien ne remplace le contexte. Ceci, les témoins admettent de principe. Nous allons voir qu'en général, ils acceptent la nature symbolique de l'Apocalypse. La très grande partie de ces choses mentionnées là-dedans, ils les prennent symboliquement, mais pas les 144 000. Regardons ici quelques données des premiers versets du 7e chapitre que nous avons lu tout à l'heure. Dans le verset 1, il est question de quatre coins de la terre. Dans le troisième, on parle des serviteurs de Dieu marqués du sceau. Nous sommes maintenant, si vous voyez, nous sommes sur l'écran. Dans le verset 4, il y a les 144 000. Toujours dans le verset 4, il y a les tribus des fils d'Israël. Et puis dans les versets 5 à 8, on donne la liste des 12 000 de chaque tribu. Or, en ce qui concerne le premier point, les quatre coins de la terre, les témoins savent comme tout le monde que la terre n'a pas quatre coins. L'expression est donc symbolique. Eux, ils le prennent ainsi. Tout le monde, je suppose, le prend symboliquement. Comme représentant l'étendue de la terre. Les témoins enseignent également que les serviteurs ne sont pas marqués d'un sceau littéral, mais que c'est une image indiquant qu'ils appartiennent à Dieu. Et les tribus d'Israël, 12 000 de chacune, les témoins répondent que les noms des 12 tribus citées par Jean sont les noms d'Israël spirituels. Tout cela, c'est spirituel aussi. Et nous notons qu'effectivement ici, après avoir dit toutes les tribus dans le texte, la Bible exclut ensuite la tribu de Dan. La liste est évidemment symbolique. Alors, les coins de la terre, la marque du sceau, même les noms et les chiffres des 12 tribus, tout cela est symbolique pour les témoins. Ainsi d'ailleurs que la plupart des autres éléments de l'Apocalypse, comme la bête sauvage, symbolique. Pour les témoins, je veux dire. Et le faux prophète, et les robes blanches, et les vieillards, les quatre êtres vivants. L'agneau, la décapitation des martyrs, la virginité des martyrs, l'abîme, les temps de feu et de soufre, tout ce que vous avez devant vous sur l'écran. Tout cela est symbolique pour les témoins, même le mont Sion sur lequel sont rassemblés les 144 000. Tout cela est symbolique. Mais le chiffre, 144 000 qui se trouve au milieu de tout cela, dans un passage où tout le reste est pris dans un sens symbolique, un chiffre composé d'ailleurs de 12 000 fois 12 symboliques, ils prennent la somme littéralement. Je vous suggère, et maintenant, ici on est en train de parler seulement d'un principe d'interprétation. Je vous suggère qu'une interprétation méthodique et saine dirait que si le 144 000 est littéral, alors le 12 000 fois 12 l'est aussi. Donc il s'agirait des 12 des tribus de Judas, d'Israël. Et que si le 12 000 fois 12 est symbolique, comme disent les témoins, alors les 144 000, qui n'est que la somme de ces chiffres, l'est aussi. Et sinon, pourquoi pas? Ici, les témoins ne suivent pas leur propre principe d'interprétation, ou en tout cas, le principe qu'ils ont suivi dans tous ces autres cas est le principe qu'ils ont suivi dans le contexte dans lequel se trouve le chiffre 144 000. Il y a un autre problème, de ce même genre, en ce qui concerne l'expression « devant le trône ». Plus loin dans le 7e chapitre, dans les versets 9 à 17, là où il est question de la grande foule, il est dit à leur sujet, verset 15, qu'ils sont devant le trône. Il est également dit dans le 9e verset, qu'ils sont devant le trône. C'est la grande foule qui est devant le trône. Rappelez-vous qu'ici, il est question, pour les témoins, des autres brebis. La grande foule, c'est les autres brebis, ceux qui ne sont pas les 144 000, ceux qui n'iront pas au ciel. Pourtant, les voici, devant le trône, dans le ciel. Les témoins diront tout de suite que devant le trône, ici, veut dire sur la terre. La grande foule est devant le trône, je cite, figurément parlant. Explication officielle de ce passage est donc que la grande foule se trouve dans une condition spirituelle qui leur permet d'avoir une position de faveur devant Dieu qui est, lui, assis sur le trône de l'univers. Ce qui est tout à fait possible comme interprétation, mais de quel droit mettent-ils les 144 000 qui, eux aussi, sont devant le trône? Dans le ciel, donc, interprétation symbolique, je veux dire littérale, alors que la grande foule qui est devant le trône est sur la terre, donc interprétation symbolique. Vous remarquerez qu'il y a d'autres choses aussi qui sont devant le trône, dans cette vision de Jean. Je vous les ai indiqué sur cette cliché, il y a les sept lampes ardentes, chapitre 4, verset 5, la mer de verre, 4 et 6, la grande foule, non pas chapitre 4, verset 9, mais chapitre 7, verset 9 et verset 15. Les 24 vieillards, 4, 10, tous les anges, 7, 11, et bien sûr les 144 000, chapitre 14 et verset 3. Les 144 000 sont donc devant le trône. Toutes ces autres choses et ces autres personnes aussi sont devant le trône. Je pose encore la question. Si devant le trône veut dire sur la terre pour la grande foule, Pourquoi la même expression ne veut-elle pas dire la même chose pour les 144 000 et ces autres choses et ces autres personnes? Et où se trouvent toutes ces autres personnes qui sont devant le trône si le 144 000 est dans les cieux et la grande foule est sur la terre? La conclusion qui s'impose est celle qui est, je crois, la plus simple. C'est que tous ces gens se trouvent au même endroit, puisqu'ils sont tous devant le trône. Mettre un groupe dans le ciel et un autre sur la terre, c'est défigurer le sens du passage et forcer un enseignement arbitraire qu'il ne contient pas. Les témoins font la même sorte d'interprétation arbitraire. Souvenez-vous que nous sommes toujours dans la rubrique interprétation, ce n'est que de ça que nous parlons pour le moment. Mais les témoins font la même sorte d'interprétation arbitraire des détails concernant ces 144 000. Dans le chapitre 14, il est dit qu'ils sont des vierges, ce qui veut dire pour les témoins qu'ils ne se sont pas souillés par le péché. Personnellement, je crois que cette interprétation est tout à fait conforme au sens de la vision et cette interprétation est symbolique. Au chapitre 20 se trouve la description de quelques gens que les témoins identifient avec les 144 000. Il est dit qu'ils ont été martyrisés. Cela aussi est pris symboliquement. Mais quand il s'agit de leur règne de 1000 ans, cela, les témoins le prennent littéralement, sans aucune raison, dans le texte ou dans le contexte. Et ils ne sont pas les seuls, comme vous le savez bien. Est-il nécessaire de nous rappeler le sens de ce chiffre 1000, qui veut dire plénitude et perfection partout où il est utilisé dans la Bible? Et quant au chiffre 144 000, nous avons là un exemple symbolique de la perfection multipliée à l'éternité, puisque le chiffre 12 représentait aussi la plénitude. Nous avons pourtant beaucoup de gens qui condamneraient les témoins pour leur position sur les 144 000 dans les chapitres 7 et 14, mais qui tiendraient à la fin de leur vie les 1000 ans mentionnés dans le chapitre 20. Une note encore avant de quitter ce point, et à elle seule, cette note servira à bien mettre en question la validité de ce chiffre pris littéralement. Il faut noter avant de lire cette déclaration que pour les témoins, tous les premiers chrétiens, les chrétiens du premier siècle, tous ces gens-là faisaient partie des élus, faisaient partie donc des 144 000. Eh bien, il est dit dans « La religion a-t-elle servi l'humanité ?» page 233, que la nation d'Israël ne comptait pas tant de croyants en Jésus-Christ, c'est-à-dire ne comptait pas jusqu'à ce nombre-là, 144 000, fils de David et postérité d'Abraham. Seuls quelques milliers de Juifs, soit une faible minorité, crurent en lui et entrèrent dans la nouvelle alliance, devenant ainsi des fils spirituels de Dieu, autrement dit les enfants de sa femme. Or, des savants et des historiens de toutes les confessions estime que le nombre de chrétiens à la fin du premier siècle, y compris ceux qui étaient morts martyrisés et par d'autres moyens, s'élevait au moins à 200 000. Et certains estiment jusqu'à 350 000. Vous voyez bien que même par des estimations les plus modestes, et cela par des experts, le nombre des 144 000 fidèles était déjà largement atteint avant même la fin du premier siècle. Je demande donc pourquoi est-ce qu'on a inventé cette doctrine. Nous passons maintenant à un examen de la doctrine des 144 000 vis-à-vis de quelques enseignements de la Bible concernant les élus. Plusieurs fois déjà, j'ai utilisé le mot « classe » pour indiquer les différents groupes au sein de ce système. Et je n'ai pas inventé ce terme « classe ». Il se trouve partout dans les écrits de la tour de garde pour distinguer entre les 144 000 et les autres brebis. Nous avons déjà vu qu'il y a une énorme séparation entre ces deux classes, aussi bien quant à leurs privilèges que quant à leurs responsabilités, surtout en ce qui concerne la vie après Armageddon. Alors, au risque de trop insister sur ce point, mais pour souligner cette séparation dont j'avais parlé tout à l'heure, je vous montre encore des passages dans les écrits de la tour de garde. Les Écritures affirment que Jésus et les 144 000 sont les seuls qui ressuscitent pour le ciel. Les autres brebis ont une espérance terrestre et le petit troupeau une espérance céleste. La destinée du reste et celle de la grande foule sont différentes. La Tour insiste que tout cela ne veut pas dire division et que la société du monde nouveau ignore des divisions, c'est une citation. Je leur